Bonjour à toutes et à tous. On va laisser les dernières personnes rentrer et s'installer. Merci de votre présence nombreuse. Merci de votre présence à cette conférence qu'on va pouvoir découvrir dans quelques minutes. Quelques petits mots introductifs. Tout d'abord, pour remercier Christian Morin de son accueil, de son hospitalité et de la mise à disposition de cette salle pour l'Assemblée générale du CAUE qu'on vient de faire, mais également pour cette conférence qui va nous être proposée par Patrick Bouchain. Cette conférence qui a pour thème « Moi, c'est tous et tous, c'est moi ». Avant cette conférence, on a eu le plaisir de partager un petit moment avec Patrick Bouchain, Christian Morin et quelques personnes du CAUE et l'épouse de Christian Morin. On a pu découvrir un lieu insolite, un lieu particulier, un lieu magique, l'Arsolite, d'ailleurs, le nom s'invente pas. Ce nouveau lieu qui vient de prendre vie sur Saint-Jean-en-Royans. Et ce lieu, il est en adéquation parfaite avec la thématique de ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est une ancienne friche industrielle, un ancien bâtiment industriel qui a été réhabilité, qui a été conforté, qui a été restructuré, qui a été conservé aussi dans son emprise, et dans son volume, dans son architecture. Et ce lieu, il est devenu un lieu magique, un lieu où on allie l'art, la culture, le divertissement, un aspect ludique. Tout ça dans un seul endroit où on va pouvoir trouver des expositions, une résidence d'artistes, un petit lieu pour se restaurer, un petit lieu pour se rafraîchir. Et donc je vous invite tous vraiment à aller découvrir ce lieu très particulier qui vient juste d'ouvrir Saint-Jean-en-Royans. Et bravo pour cette réalisation, parce que c'est vraiment un lieu magique et j'ai beaucoup apprécié cette découverte. On va commencer ce petit propos par une chose qui n'est pas traditionnelle. On va commencer par une citation de notre conférencier. Donc une citation de Patrick Bouchain qui nous dit « Ce qui fait la qualité de l'architecture, c'est la qualité de la commande plus que celle de l'architecte. Quand j'ai travaillé sur des endroits avec très peu d'argent pour en faire des lieux culturels, j'avais un commanditaire parfait. Un budget si minime qu'on ne parlait même pas d'architecture et un objectif clair. » La commande, c'est le cœur de métier du CAUE, avec un positionnement en amont des projets, une neutralité qui offre cette capacité à réinterroger la commande. Grand prix de l'urbanisme 2019, Patrick Bouchain a tout au long de son parcours bousculé les codes en plaçant les usages au cœur de sa pratique et renouvelé en profondeur les modes de faire et de participation habitante. Ce prix récompense autant l'œuvre de Patrick Bouchain que le souci de transmission d'un savoir et de pratique. Architecte et scénographe, c'est une figure de transformation de friche industrielle en lieu culturel et pionnier de la valorisation des lieux urbains délaissés. Pour en citer quelques-uns, le théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers, l'Académie Fratellini à Saint-Denis, le Chanel à Calais, le magasin à Grenoble, le lieu unique à Nantes, la Metavilla à la Biennale d'architecture de Venise, ou encore le Centre Pompidou mobile font partie, entre autres, de l'œuvre menée par Patrick Bouchain sur une trentaine d'années. Précurseur, il met en œuvre sa pensée anticonformiste dans la réhabilitation de friches industrielles en espaces culturels. La construction d'espaces de spectacle, d'espaces publics, d'établissements scolaires, d'habitats sociaux, grâce à une architecture simple et une vision du faire ensemble. Aujourd'hui, il se consacre à transmettre son expérience. Nul doute qu'il trouvera une écoute attentive de votre part. Élu, professionnel de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'environnement, ou encore simple citoyen, tous engagés pour la qualité du cadre de vie en Drôme. Je vais laisser Claire Cossera compléter ses propos. Merci.
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, pardon. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le CAUE est ravi d'accueillir Patrick Bouchain, qui vient nous présenter sa démarche atypique, une démarche qui questionne constamment l'acte de construire, une conception de l'architecture qui repose sur le besoin et les savoirs des habitants. Pour préparer cette conférence, j'ai lu quelques ouvrages de vous, sur vos projets, sur votre démarche. Il y avait des livres sur vos projets, c'était des récits revigorants qui élargissent le domaine des possibles. Certains livres parlaient aussi des chantiers où les ingrédients sont délégation, confiance, retournement des contraintes, assouplissement des normes et imagination. Votre parcours, c'est un parcours riche d'une cinquantaine d'années, du coup, vous me disiez. avec plus de 150 réalisations qui vont de la reconversion de friches industrielles à la création de structures éphémères, de l'habitat social à l'équipement public. Et chaque projet est unique et fondé sur la réversibilité, l'expérimentation et le faire avec. Faire avec les habitants, faire avec l'existant, faire avec les artisans, faire avec les ressources locales. Ce faire avec prend tout son sens dans le contexte actuel où il y a une forte demande de pratiques démocratiques et un épuisement des ressources et de manière plus générale, une remise en cause de la standardisation de la construction. Le sujet du faire avec est un enjeu pour le CAIE. C'est le sujet qui a été retenu pour la prochaine rencontre départementale qui se tiendra le 9 novembre. Mais revenons à vous. Pendant des dizaines d'années, vous avez orchestré des projets où les manières de construire étaient repensées. Vous avez développé à moindre coût ce qui semblait infaisable. Et depuis 2016, vous vous consacrez à l'enseignement et à la transmission de votre expérience. Avec la preuve par 7, vous allez nous en parler pendant la conférence, vous élaborez une démarche expérimentale qui travaille avec des porteurs de projets en cours de développement à travers toute la France à 7 échelles territoriales. Ça va du petit village jusqu'à la métropole et il y a un territoire des dom-toms aussi. L'objectif est de promouvoir le recours à des approches inédites, dessiner de nouvelles manières de construire la ville collectivement et revendiquer un droit à l'expérimentation. Cette démarche s'appuie sur des questionnements qu'on se pose nous aussi au CAIE lorsqu'on accompagne les collectivités. Comment partir du terrain et de ses acteurs pour se saisir des grands enjeux sociétaux? Comment mener des projets qui s'adaptent aux spécificités locales, qui permettent une appropriation individuelle et collective, tout en répondant aux attentes bien définies des opérateurs et des financeurs? Vous vous intéressez à la question de la commande et des réglementations. Vous participez à la rédaction du permis de faire introduit par la loi relative à la liberté de création, à l'architecture, au patrimoine, qui date de 2016 et qui autorise l'expérimentation grâce à la possibilité de déroger à certaines normes trop contraignantes. Toute l'équipe du CAIE est ravie de vous accueillir sur notre territoire, de recueillir votre témoignage qui vient bousculer la chaîne traditionnelle de l'aménagement, ainsi que la place de chacun des acteurs dans la fabrique de la ville. Dans un contexte de sobriété, nous cherchons à faire évoluer nos approches et nos pratiques. Nous cherchons à proposer des lieux capables de s'adapter aux différents besoins sociétaux sans pour autant subir des transformations titanesques ni des investissements trop lourds qui rendent parfois le fonctionnement très complexe. Nous cherchons à proposer des lieux appropriables par tous, des lieux mutualisables, des lieux qui peuvent évoluer dans le temps, des lieux où qui ne fichent pas les espaces dans un programme d'usage. Voilà, on vous remercie d'être là et je vous laisse la parole.
Là, vous entendez. Ah oui. Non, c'est ça. On a été habitué pendant très longtemps à parler dans des édifices qui étaient donc construits pour qu'on puisse parler sans micro, parce que ça n'existait pas. Et donc aujourd'hui, comme les micros existent, la ventilation mécanique existe, la climatisation existe, le chauffage existe, donc on ne fait plus une architecture humaine, on pourrait dire, mais une architecture d'ailleurs qui va poser des problèmes au niveau de sa consommation énergétique, voire de ses matériaux. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on va parler d'écologie dans un endroit qui est peut-être climatisé, chauffé, ventilé, sonorisé, et alors qu'on pourrait se donner comme règle, est-ce qu'on peut se parler sans rien d'autre que la bouche et le regard. Vous voyez, j'ai fait remonter la lumière, par exemple, parce que on privilégie en général l'image à la vue que j'ai de vous. Et moi, je peux pas parler si je vous vois pas. Et là, en plus, je vois pas bien. Je vois pas parce que la pente est trop forte et que c'est la réglementation qui l'a donné, les tiroirs. Et qu'éventuellement, même la distance est bonne, mais je vois pas votre émotion. Je ne vais pas donc pouvoir être totalement rentré en relation avec vous. Et donc, quand on fait des lieux de culture, puisque j'ai commencé à faire principalement des lieux sans argent, et les gens qui avaient très peu d'argent étaient en général les artistes. Donc, on m'a présenté comme quoi je réinventais la commande ou que la commande était déterminante, c'est parce que quand vous travaillez avec quelqu'un qui a une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'être logé, besoin de travailler, besoin de montrer ce qu'on sait faire et tout, la commande, elle est très simple. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir répondre à cette commande simple. Et très souvent, on pervertit la commande au prétexte que réglementairement, elle va passer par des règles que vous connaissez tous. Alors, comme moi, j'ai travaillé avec des gens qui n'auraient jamais pensé pouvoir utiliser un architecte, hein, parce que voilà, ça paraissait onéreux d'utiliser un architecte, voire peut-être que les architectes avaient une incompétence pour la question qu'on allait leur poser. Donc, j'ai décidé de faire ce que les architectes ne faisaient pas. C'est-à-dire de dire, en gros, les architectes construisent, je ne construirai pas. Et les architectes se nomment architectes, je me nommerai pas comme architecte. Donc, j'ai plutôt été pendant très longtemps assistant. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'il fallait assister quelqu'un. Alors aujourd'hui, on appelle ça de la participation. Mais qu'il fallait assister quelqu'un pour qu'il définisse mieux sa commande. Et en assistant cette personne pour qu'elle définisse mieux sa commande, on pouvait éventuellement l'aider à réaliser son désir. Vous voyez, l'aider à franchir quelque chose que cette personne n'aurait pas osé franchir au prétexte qu'elle se considérait comme incompétente. Alors, en commençant comme ça, et en effet, Claire a raison, c'est il y a 50 ans. Donc, j'ai touché un milieu qui n'aurait jamais pensé faire de l'architecture et qui n'aurait jamais pensé, d'ailleurs, s'adresser à un architecte. Et comme dans le même temps, ces commandes relevaient, disons, de budgets qui étaient, pour ainsi dire, inexistants, qui étaient comme quand on répare sa maison et autres, c'est comme ça qu'en fin de compte que j'ai abordé l'autoconstruction. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un ne pourrait pas, d'ailleurs, travailler sur son propre espace, que ce soit son travail et autres, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça à faire d'autoconstruction. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à me rendre compte que on pouvait peut-être travailler avec des manuels ou des gens manuels avec un respect qui est indispensable à cette pratique, puisqu'il n'y a pas d'architecture sans sa matérialisation et qui est sa construction. Comment peut-on imaginer que, voilà, aller dans un lycée d'enseignement technique, c'est une voie d'échec par rapport à la voie plutôt royale de l'enseignement général des écoles préparatoires et des grandes écoles? Comment peut-on considérer que ce qui va être notre main est une main négligée dès très tôt, en disant c'est une mauvaise orientation, d'ailleurs mon fils, ma fille a échoué scolairement et donc malheureusement voilà, c'est tout. Ou de considérer que le dernier arrivant, c'est-à-dire le migrant ou l'immigré ou la personne qui vient, celle en fin de compte qui n'a pas le métier, ce métier-là entre les mains, mais comme personne ne veut faire cette tâche, en fin de compte on a affecté à l'immigration une grande partie de la construction. Donc, vous voyez, je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. On ne peut pas avoir quelqu'un dont c'est pas le métier, mais qui vient encore porteur d'une construction archaïque, donc qui est porteur presque, on va dire, d'une construction écologique, d'une construction économique et écologique. Comment cette personne qui est porteuse de ça, on la considère comme une simple main-d'œuvre d'exécution et non pas une main-d'œuvre d'interprétation. Et comme je faisais du théâtre et que dans le théâtre, on peut travailler avec un texte historique, vous voyez, on peut travailler avec une pièce de Sophocle qui a été réadaptée au XVIIe siècle par Racine et qui est rejouée aujourd'hui par quelqu'un qui lit le mythe, qui existait sûrement peut-être avant Sophocle, mais avec le mythe, et qui en effet, en la rejouant, la remet d'actualité dans cette chaîne qui est indispensable. On appartient à un ensemble, et donc cette chaîne, elle est non seulement, il faut revenir à la base, à ce qu'on appellerait la reprise, la répétition, il faut recommencer la chose pour la réactualiser et éventuellement la transmettre, la transporter, vous voyez, dans l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de rupture. Et comme la modernité a considéré table rase, rien avant, nous, on a tout inventé, que l'industrie, rien avant, on a tout inventé, voilà, je me suis trouvé à un moment donné à dire, mais dans quel monde vivons-nous et pourquoi je ne peux pas, justement, faire mon métier en rentrant par le plus petit. Et le plus petit est peut-être le plus grand. Parce que le plus petit, c'était éventuellement quelqu'un qui a le désir de réaliser quelque chose sans commande. Parce que n'oubliez pas que le travail artistique est sans commande. Le travail artistique est une impulse que quelqu'un, un impulse que quelqu'un a et veut produire quelque chose. Bien qu'on pourrait dire un tableau a toujours existé, une scène de théâtre a toujours existé, je ne sais pas quoi, un film, et suite. Non, on a un besoin de rentrer dans le mouvement. Et en rentrant dans le mouvement, on, on, on produit quelque chose qui est expérimental. On produit quelque chose, on en parlait à midi, et vous voyez, quand vous le dites comme ça, en deux mots, voilà, que toute œuvre, pour être jugée, doit être terminée. Ça paraît banal, mais on ne peut pas juger une œuvre avant qu'elle soit faite. Donc, toute ma vie, ça m'a préoccupé. Pourquoi on fait confiance ou on laisse quelqu'un sans commande vouloir produire quelque chose, au risque d'ailleurs de produire une merde, parce qu'il ne produit pas toujours une œuvre. Il produit quelque chose qui est porté au jugement de la société et après qui est classé, et éventuellement même qui sort de son classement. Elle peut rentrer et sortir d'un classement. Et les grandes œuvres musicales, les grandes œuvres peinture ou d'architecture qui sont rentrées et sorties. Alors je me suis dit, je vais travailler avec celui qui a un désir, qui a un besoin, qui a un impulse, qui a une nécessité et qui n'aurait jamais pensé qu'il était compétent pour travailler sur l'espace dans lequel il va vivre et travailler. Parce que là aussi, d'avoir séparé le travail et la vie, je ne sais pas comment on pourrait dire, parce que alors ça veut dire qu'il y aurait l'appartement serait la vie de quoi ? La vie d'un couple, et le travail serait la vie d'un employé ou d'un ouvrier. Enfin, c'est absurde, quoi, voilà. Alors j'ai travaillé sur ça, et très tôt, on a considéré que je ne faisais pas l'architecture. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelait à mon époque du socio-cul, voilà, du socio-culturel. Et lentement, cette façon de faire a commencé à changer d'échelle, parce que je me suis formé. À l'école, je n'avais pas appris ça, et je ne comprenais pas ce que j'avais appris, d'ailleurs, parce que j'étais allé dans une agence, une très grande agence, parce qu'il y avait le plein emploi quand je sortais de l'école, et j'avais des gens qui faisaient des milliers de logements sociaux, et donc je suis embauché, et j'ai un chef d'agence, et qui me présente un chef de projet, et je demande ce que je dois faire, et il me sort la liste d'un programme de 4000 logements, et je dis, mais comment je fais? Il prend son trousseau de clés, il le jette sur la table à dessin, et dit, ce sera le centre-ville. Et il fait un rond, comme ça, et dit, maintenant, tu prends telle affaire, tu découpes, on découpait les calques, on faisait des contre-calques, tu colles et tout, et on collait des barres, comme ça, et après des cellules type et tout. Bon, je suis resté un mois pour toucher mon salaire, et j'ai dit, plus jamais ça. Alors, quand j'avais décidé donc de ne plus jamais ça et qu'il fallait donc quand même que je vive, et il fallait donc que je travaille pour vivre, il fallait que je fasse des petites choses, mais il fallait que les petites choses me soient rémunérées au même niveau que ceux qui me passaient commande. Vous voyez, c'était éviter cette différence d'échelle ou cette supériorité que peut donner un traitement, un salaire ou des honoraires. Et donc, c'était de dire, en fait, compte, est-ce que je peux gagner la même chose qu'un ouvrier ou est-ce que je peux gagner la même chose qu'un artiste ? Parce que des fois, ce qui est pareil, la précarité artistique, on la considère comme très avantageuse et parce que c'est quelqu'un qui est intellectuel et autre par rapport à la précarité sociale. Mais au bout du compte, sur le plan économique, c'est la même chose, c'est le même montant. Simplement, les modes de vie sont pas pareils. Pour l'un, c'est accepté éventuellement à l'époque. Maintenant, tout le monde le fait. On s'habillait avec des vêtements qu'on achetait aux puces, par exemple. Voyez. Donc, voilà. Seuls les artistes s'autorisaient ça, par exemple, de porter des vêtements d'un autre, par exemple, ou de porter toujours le même vêtement, pas d'avoir. Donc, j'ai commencé à faire l'architecture comme ça. Et aujourd'hui, ça me fait tout drôle d'entendre que, eh ben, c'est la participation, c'est l'éco-construction, c'est la responsabilité, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et donc, ça m'inquiète parce que plus on en parle, en fin de compte, presque plus on empêche de la faire. Parce qu'en fin de compte, on se dédouane en utilisant des termes qui nous donnent bonne conscience. Voilà, donc, et moi, j'aime pas trop ça. Voyez. C'est comme quand on fait un musée. En général, quand on fait un musée sur un sujet, c'est que le sujet est en péril. On pourrait dire, pas les musées d'art, mais sur un musée, vous voyez, ethno, par exemple, un musée de mode de vie, quand on commence à voilà, collectionner des objets particuliers, c'est qu'ils vont disparaître. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je reste tout le temps dans ce niveau-là et que je réinvente toute la chaîne. Alors, je me suis rendu compte très vite que cette commande venant de un, qui était un artiste, par exemple, elle pourrait être de la même façon d'un habitant qui n'oserait même pas le dire, qu'il a un point de vue sur le paysage, il a même un point de vue sur l'acoustique, il a un point de vue sur la beauté, sur la beauté. Voilà, il a un point de vue sur une chose qui est apparemment immatérielle presque. Et donc j'ai essayé de me promener par ces nouveaux commanditaires, on pourrait appeler. Comment je pourrais aller chercher des commanditaires totalement inattendus. Et ensuite, je me suis mis dans la peau d'un commanditaire public qui ne pouvait pas faire comme moi, parce qu'on me disait, mais toi c'est facile, tu fais avec un artiste, toi c'est facile, tu es avec quelqu'un qui est intelligent, toi c'est facile, tu as choisi ton commanditaire. À chaque fois on trouvait, je dis, attends, c'est facile, vous le faites pas, moi je le fais, et je vous jure, c'est quand même un effort, mais ne dites pas que c'est facile. Alors après, ça m'énervait tellement, je me disais, bah, attends, moi je vais y aller, tu vas voir, je vais aller dans la commande publique. Vous allez voir ce que je vais pouvoir démontrer que c'est pareil. Donc j'ai été, j'ai même très souvent assisté un politique. Parce qu'un politique, si vous voulez, c'est compliqué comme mission. Parce qu'un politique, il est délégué dans un système de représentation, la démocratie représentative. Il reçoit une délégation d'un collectif, qui est la société. Et quand il n'est pas élu, il est citoyen. Et il revendique à un moment donné de prendre une place plus responsable que les autres, et donc il fait campagne, ce qu'on appelle les élections, il défend son programme et tout, il est élu. Mais la veille d'être élu, il était un citoyen, et le lendemain, il est un élu. Et on voudrait que dès le lendemain, il soit compétent dans tout, ou que dès le lendemain, il soit détaché de nous, que lui-même, il se détache de nous par rapport à la fonction qu'il prend. J'ai pensé qu'en démocratie, il y avait un manque là, entre d'un seul coup ce saut de devenir un élu, qui d'un seul coup est en général phagocyté, vous le savez, par les services techniques. Parce que comme l'élu, bah, il ne sait pas, alors il pose des questions. Comme il est quand même, il est citoyen, il est élégant quand même. Il entend, il ne peut pas tout remettre en cause. Et du coup, il a tendance quand même à maintenir en état l'équipe technique qui va gérer la collectivité pour laquelle il a été élu. Il ne peut pas mettre tout le monde à la porte et ainsi de suite. Et donc, sans s'en rendre compte, il va se faire contaminer par une sur-autorité, on pourrait dire, des techniciens, voire même peut-être pour le protéger. Parce que très souvent, d'ailleurs, les services techniques disent « Monsieur le maire, c'est pour vous protéger. On vous empêche de faire ça parce que c'est pour vous protéger. Vous allez aller en prison, sinon vous allez vous protéger. » On donne l'exemple du paquet, du truc de basketball qui est tombé, machin, toc, prison et tout. Il suffit de donner un exemple, hop, j'arrête. Voilà. Alors, du coup, je me dis, il manque un maillon qui est de décrypter, parce que s'il y a des services techniques, c'est utile, s'il y a des lois, c'est utile, s'il y a des règlements, c'est utile, s'il y a une organisation territoriale, c'est utile. Enfin, il n'y a pas de raison de faire la table rase, parce que j'ai dit que j'étais contre la table rase. Mais il y a peut-être à un moment donné un éclaircissement par simplification. Vous voyez, je veux dire, ben, écoutez, pas comme un bouffon, comme le bouffon du roi, ou comme un peu le fou qui se permet de dire la chose, mais putain, je vais le dire autrement. Voilà, ce que vous avez entendu, je vais vous le dire autrement. Voilà. J'aimerais vous le dire autrement, puis après on verra si vos services peuvent l'entendre autrement. Et puis d'ailleurs, on va regarder si comment je vous le dis, est-ce que ça ne s'est pas fait ailleurs ? Parce qu'on est quand même dans une république, c'est pas une république bananière, il y a quand même un truc qui s'adresse à l'ensemble du territoire. Donc si ça s'est fait ailleurs, on peut aller voir comment ça s'est fait, pour quelles raisons, et on peut d'ailleurs considérer que ce qui s'est fait ailleurs, c'est une forme de jurisprudence. Et en fin de compte, tout le droit, tout le code pénal, il n'est applicable que parce qu'il y a des jurisprudences. Il n'est pas applicable à la lettre. Sinon, on mettrait tout le monde en prison tout de suite. Et on peut même, d'ailleurs, être avocat et défendre un criminel. Et ce qui compte, c'est de défendre le criminel. C'est pas de le mettre en prison. C'est de le juger. Et en le défendant et en le jugeant, on s'aperçoit quand même, ben voilà, il a dépassé les bornes. Il est sorti de la règle qui permet de vivre ensemble. Mais c'est pas toujours utile de le mettre en prison. D'ailleurs, c'est le jugement qui est important. C'est le jugement public. C'est la délibération publique. C'est très important. Vous vous rendez compte, voilà, il y a quelqu'un dont on sait, mais on n'a pas toutes les faits et tout, mais on va débattre que ce qu'il a fait n'est pas normal. Il y aura d'ailleurs des jurés qui seront tirés au sort dans certaines cours pour donner un avis, qui est un avis qui revient du peuple. C'est pas un avis seul de l'institution judiciaire. Alors, j'ai essayé de faire mon métier comme ça. Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'au début, on disait, ben, en fait, il a défendu les squats, donc c'est un gaucho, quoi, c'est un anarchiste, un gaucho. Et après, maintenant, il va nous parler de loi. Et en plus, non seulement je parlais de loi, mais moi, quand je venais à des réunions, je venais avec le code civil, ou le code de l'urbanisme, ou le code rural et forestier, vous voyez, ou même le code de l'éducation. Je dis, mais attendez, de quoi me parlez-vous ? Alors, on regarde l'article, quoi. Bah oui, d'accord, comme ça. Mais vous êtes d'accord qu'on peut l'interpréter comme ça ? D'ailleurs, certains l'ont déjà interprété. Et d'ailleurs, nous, on pourrait être les premiers à l'interpréter. Peut-être que d'ailleurs, le contexte, pour que réponde réellement à la demande, il faudrait l'interpréter. Parce que si on l'applique tel, en fin de compte, on va répondre et ça ne va pas satisfaire. Alors, c'est assez drôle parce que je suis passé entre l'assistant d'un artiste pour après aller être l'assistant d'un habitant, mais pour moi l'artiste est un habitant, Voilà, parce que ça me désole quand j'entends il y a les habitants, les artistes, les élus, tout. Enfin, moi, j'ai démontré qu'à un moment donné, l'artiste était un habitant, avec les mêmes conditions financières qu'un habitant qu'on qualifiait d'habitant, mais on le considérait comme un minable parce qu'il avait gagné le SMIC, par exemple, et, ou d'un élu qui, en fin de compte, était un citoyen très modeste, qui avait fait campagne, qui était élu, et d'ailleurs qui avait une rémunération. Il y a certains élus qui ont des rémunérations d'une très grande modestie. Souvent, être élu d'une petite commune, c'est des fois ne même pas avoir assez pour payer l'essence de la voiture pour faire sa permanence. Voilà. Alors, en faisant comme ça, j'ai commencé à démontrer que je pouvais changer d'échelle et que je pouvais changer d'interlocuteur. Et donc, je suis monté assez haut, si vous voulez, parce que je suis monté même jusqu'à un ministre. Vous voyez, quand vous avez un ministre qui, d'un seul coup, est bloqué dans une situation, et vous arrivez, vous dites, bah oui, c'est normal, vous êtes bloqué parce que c'est comme ça, mais moi, je peux faire comme ça, et d'ailleurs, on peut faire comme ça. Alors, c'est comme ça que j'ai, contrairement à ce que ça indique, j'ai le bras long. Mes parents étaient très modestes, on vivait très modestement, j'avais aucune relation. C'est simplement, on pourrait dire, le terrain qui m'a permis de rencontrer les élus, les chefs d'entreprise, et donc, pour moi, des habitants. Voilà, donc. Alors, en faisant comme ça, je me suis dit, mais pourquoi on ne m'a pas enseigné ça à l'école? Pourquoi je n'ai pas entendu ça? Alors, c'est vrai que c'est dur. On ne peut pas faire une école qui fait une sorte de mimétisme sur le réel. On va faire travailler les étudiants sur un projet, mais le projet sera un vrai projet. Mais en fait, ce n'est pas un vrai projet. Enfin, c'est un terrain qui est un vrai terrain, mais ce n'est pas un vrai programme, ce n'est pas un vrai budget, ou je ne sais pas quoi. En fin de compte, on va faire comme la recherche scientifique. C'est-à-dire, quand vous êtes anthropologue, vous avez beau être, je sais pas, le plus grand anthropologue, Lévi-Strauss, par exemple, il allait aux îles Samoa, il habitait sous une tente, il était en short, il apprenait la langue locale, il se faisait piquer par des moustiques, et il étudiait les choses, il les ramenait au Collège de France, et il faisait une conférence au Collège de France. Donc, il n'aurait pas pu faire une conférence au Collège de France si elle n'avait pas été sous une tente dans les îles Samoa, très éloignée de sa famille pendant un certain temps, parce que c'est impensable. Les architectes, non. Voilà, les architectes, on sait, les sociologues non plus, on fait des enquêtes, mais on empile les enquêtes, et les architectes, on fait des concours, on a des modèles, on a des programmistes, et on ne remet pas en cause ni les programmes, ni les concours, ni les machins, ni la façon dont on attribue les marchés, et ainsi de suite. Alors, en effet, quand j'en parle, on me dit, mais quand même, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps, mais comme moi j'ai fait de mon métier ma vie, ma vie, c'est mon métier, je ne sais pas comment on pourrait dire. Quand je lis un livre, je pense à ce que ça va avoir comme incidence sur la façon dont je fais mon métier, par exemple. Ou mes amitiés sont en général mes amitiés dans l'action, dans le travail. Je ne sais pas ce que ça veut dire un loisir. Vous voyez, d'avoir des amitiés dans le loisir et tout. On part en week-end, mettons. Rien ne m'énerve plus que le vendredi à 15h, bon week-end, j'ai envie de foutre des fois je me dis, mais attends, bon week-end de quoi? Pour moi, oui, peut-être, enfin bon, pas un peu surpris. Alors, je me suis dit un jour, mais pourquoi c'est pas l'école que j'ai entendue? J'ai entendu certains professeurs, quand même, parce que j'ai quand même été orienté. Je viens pas de rien. J'ai été orienté au collège, j'ai été orienté au lycée, j'ai été orienté dans l'école, j'ai été orienté par les films que j'ai vus, j'ai été orienté par les ciné-clubs auxquels j'ai participé. J'ai été orienté, si vous voulez. Mais c'était un truc que j'ai été chercher. Tout n'était pas sous la même institution, sous la même pratique et tout. Et je me dis, c'est toujours un peu prétentieux, si vous voulez, on dit, mais pourquoi je ferais pas une école? Voilà, pourquoi? Puisque je sais comment faire une école. C'est compliqué de faire une école, parce que voilà, y a aussi, c'est pas la table rase. Il n'y a pas une école qui n'est pas bonne, puis une école qui est bonne. Il suffit de le dire et elle sera bonne. Quoi. Alors, je me suis trompé. J'ai commencé à vouloir faire une école, planter. Après, j'ai voulu enseigner un petit temps, je me suis planté. Après, en 81, avec Jean Prouvet et Charlotte Perriand, on avait tenté de faire une école de création industrielle, qui était une école qui permettait de regarder justement autrement le monde dans lequel on entrait, sachant qu'il changerait, mais que l'industrie continuerait à être le mode de production. On ne pouvait pas dire, bon, ben, on va tous faire des cuillères en bois et des paniers en osier. Voilà, il y a un problème. Quoi. Mais peut-être qu'on peut regarder autrement les choses. Bon, j'ai une très grande expérience à cette école. J'ai fait pendant 3 ans, je l'ai créée. Après, Jean Prouvé est mort. Voilà. je suis parti. Et après, j'ai rencontré d'ailleurs le ministre de la Culture de l'époque grâce à l'école et grâce à ma démission, parce qu'il ne voulait pas que je démissionne. Et donc, Jacques Lang m'a demandé de le rejoindre. Et donc, j'ai dit non, moi, je ne veux pas rentrer dans une structure. Je veux bien être à l'extérieur pour faire des choses que vous n'arrivez pas à faire dans le ministère. Donc, j'étais, certains, le poil à gratter, quoi, là, et de dire, est-ce que, en effet, à la place où est un ministre dans l'exécutif et donc dans l'application d'une politique et les moyens que l'on a pour l'appliquer, est-ce qu'il y a une réalité entre cette décision et son application? Donc, je pouvais prendre plein d'exemples. Je déjeunais très souvent avec lui le mercredi après le Conseil des ministres. Il me disait les décisions qui avaient été prises. Et je disais, ben non, pas la peine. C'est un effet d'annonce, ça, mais même pas la peine d'essayer. Voilà. Sur le logement social, au voisin, même pas la peine d'essayer. Sur le sport avant l'été, un terrain de sport pour chaque enfant. Ben, ça, tout, c'est pas en vacances. Mais après, il faut trouver le terrain. Il est à l'office d'HLM. Il faut le faire avec des travaux. Puis on n'est pas dans le plan qui est financé. Donc, terminé, c'est pas la peine. Il faut me acheter des ballons. Et c'est les ballons, les bons que je joue dans la rue, quoi. Alors, du coup, j'ai fait ça avec lui, et comme j'avais été un militant avec beaucoup avant, après 68, sur ce qu'on appelle la création des ateliers publics d'architecture et d'urbanisme. Et on avait donc inscrit d'ailleurs ça dans les 110 propositions du candidat socialiste, et d'avoir une maîtrise d'œuvre publique. Voilà, les CAUE, je voulais donner un supplément au CAUE. Qui était pour moi trop dans le conseil et pas dans la maîtrise d'œuvre. Alors on a accepté, bien sûr, machin, même dissolution de l'ordre, désordre, tout le monde avait tout accepté, bien sûr. Élection, moi, Quillot, le maire de Clermont-Ferrand, qui est ministre de l'équipement, il nous reçoit, parce qu'on est une délégation quand même assez importante, avec des architectes de renom, et il nous dit, écoutez les gars, entre les promesses électorales et la réalité... Voilà, on a discuté maintenant avec l'ordre. En fait, c'est une atteinte à l'exercice libéral. C'est une commande dévoyée. Non, voilà, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Et du coup, allez, salut, on fait pas d'atelier public. On a compris. Quand Jacques Lang a été ministre de la Culture, que je travaillais auprès de lui, il a été, à l'époque, on pouvait être maire. Il a été élu maire de Blois. Bon, il avait pas très bien envie d'être maire, mais il fallait l'être pour être raccordé au terrain. Et donc, j'ai été un peu le vice-maire. C'est-à-dire que j'étais, en fait, compte un maire qui était son bras droit, mais pas l'élu. C'est-à-dire que j'étais, en fait, compte comme un technicien. Il y avait un premier adjoint qui dirigeait, mais moi, j'étais le secrétaire général. Alors, j'ai mis en place un atelier public d'architecture. Alors là, tollé l'ordre des architectes, machin. J'ai eu tout le monde contre moi. Mais comme, voilà, c'était la ville du maire, du ministre, pardon, le préfet a accepté à titre expérimental de mettre un atelier. J'ai dirigé donc un atelier public d'architecture pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, comme je me faisais payer à la rémunération d'une personne qui rentrait au premier poste dans la fonction publique, oui, c'était pas beaucoup, et donc je pouvais pas, ça pouvait pas durer. Voilà. Au bout de 4 ans, je suis parti. À peine je suis parti, ils ont dissous l'atelier et on est revenu à la mode d'avant. J'ai quand même fait un pont de 400 mètres sur la Loire que j'ai piqué à la direction des routes, ouais, en disant je vais faire un pont urbain et non pas un pont périurbain. Voilà. Bon, on s'est assez quand même. C'était possible. Il fallait en effet négocier avec le ministre, avec la direction des routes, mais la DDE était d'accord qu'il fallait faire un pont urbain, par exemple, aller de quai à quai. Mais un truc aussi simple que pour être jugé, une œuvre doit être terminée. Il y a un pont, pour moi, ça va de quai à quai. Ça ne va pas de la fin de l'autoroute en passant dans le paysage pour aller atteindre la Sologne, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Donc de quai à quai, c'était une longue lutte. Voilà. Alors, du coup, quand tout ça s'était fait, je me disais, oui, d'accord, mais c'est facile. Tu as le bras long, tu as fait des petites choses, maintenant tu machin et tout. Mais en fin de compte, tu t'es pas collé à la réalité. Et donc, j'ai commencé mon métier, alors que je l'ai commencé à 22 ans. J'ai commencé mon métier, en fin de compte, réellement, de dire, ben, je vais être maître d'œuvre. Voilà. Et donc, à 55 ans. Voilà. Et donc, c'est assez drôle parce que j'ai commencé avec une énergie de quelqu'un qui a 22 ans. Parce que c'est comme si j'avais été à l'école de 22 à 55 ans. Et là, j'étais en pleine possession de mes moyens. Vraiment, là, j'étais imbattable. J'avais l'énergie, la connaissance, la compétence, le réseau, le machin et tout. Et donc, j'ai fait pendant 10 ans, de 1995 à 2005, tous les équipements qu'on vous a décrits, hein, j'ai fait exprès tout différent, un centre commercial, une piscine, des logements sociaux, une opération en rue, une usine pour un équipementier automobile, un restaurant 3 étoiles, vous voyez, pour montrer que tout peut exister. Et là, du coup, la profession me découvre. On ne l'avait pas vu arriver, il arrive comme ça, là, en fin de compte, il est en train de nous dire qu'on s'est trompé, quoi, il y a une critique. Et donc là, j'ai tout. J'ai une exposition à la Villa Noailles, une exposition à Arc-en-Rêve, choisie pour le pavillon de la France à Venise, et ensuite, attaqué au pénal par l'Ordre des architectes pour port abusif du titre, parce que je ne payais pas ma cotisation, et ainsi de suite. Et donc, du coup, je dis, bon, bah, j'arrête. Donc, maintenant, j'ai travaillé comme un arrache pied 10 ans. 10 ans, j'arrête. Et je prends ma pré-retraite, parce que ça m'était suffisant. Je ne vis que de ma retraite, qui est plus que ce que je gagnais quand j'exerçais. Et je donne mon temps comme un chercheur qui, grâce à sa retraite, a un crédit de recherche. Et à partir de là, je dis, je ne fais plus que d'accompagner des jeunes, des gens qui ont envie de faire comme moi, mais ils n'ont pas les moyens. Et pour ça, je fais une école de terrain. Alors, je fonde d'abord ce qu'on appelle une université foraine, parce que je m'étais accroché avec Michel Onfray sur l'université populaire. Parce que l'université populaire, c'est un problème, parce que c'est en général un universitaire qui donne son temps caritatif, bénévole, comme vous voulez, à des gens qui ne sont pas allés à l'université et qui le regrettent. Mais moi, pour moi, il est trop tard. C'est-à-dire que c'est pas à 55 ans qu'on apprend l'économie, ou à 70 ans qu'on apprend l'économie, ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est même un peu prétentieux, parce que c'est enseigné à des gens qui ne sont pas allés, alors que vous y êtes allés, et vous dites, ben, je vais vous transmettre ce que vous auriez dû avoir. Ils en ont eu trop tard. Alors, moi, je m'étais accroché à lui, et j'avais fait une université de terrain, sur les modes de survie, et on s'est engueulé. Et après, je me suis dit, en fin de compte, je vais changer, je vais faire une université foraine. C'est-à-dire que je vais pas faire changer l'université dans son sein, ni créer une université libre contre l'université, mais je vais emmener l'université sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les anthropologues. Est-ce qu'on peut dire, admettons, il y a un chantier, et ce chantier, un sujet, un projet, un chantier, on va dire comme ça, les trois stades, et on pense que c'est intéressant de réinterroger le sujet. En fin de compte, peut-être de remettre en cause la commande, mais pas au sens « je suis contre », mais au sens peut-être qu'elle n'est pas totalement bien définie. Et pourtant, on dira « non, on ne recommence pas, on n'a jamais eu tellement de temps à trouver le financement et tout ». On dira « non, au contraire, c'est peut-être pour dépenser moins, c'est peut-être pour être plus près et tout ». Et donc, c'est de dire « on fait venir au moment où le sujet est exposé et où le projet est en train de se faire et où le chantier va se réaliser, alors on fait converger tous ceux qui sont intéressés par ces trois phases et qui viennent avec leurs propres moyens. C'est-à-dire ça ne coûte rien. C'est-à-dire, en fait, compte à tel lycée d'enseignement professionnel, telle école maternelle ou telle université, tel labo, je ne sais pas quoi, ou tel retraité. Allez, hop, on y va, on fait... Donc j'ai inventé ce qu'on appelle la permanence architecturale, la création donc de la cité de chantier, qui est un vrai lieu commun à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises et aux ouvriers, et un lieu de vie donc pour tous les habitants. Et donc j'ai inventé un lieu de vie qui est préparatoire à l'équipement et qui est le lieu de la transmission et de l'enseignement. Là, je me suis rendu compte que ça marchait parce que il n'y avait aucune vision vous voyez, coercitive de ma part de remettre de l'ordre dans des programmes pédagogiques avec une idéologie qui orientait l'intention de chacun, de dire, en fin de compte, ben, voilà, le sujet, c'est ça, à chacun de prendre vos responsabilités avant du sujet. Mais vous voyez, j'ai fait, admettons, des grands sujets sur les réseaux séparatifs. C'est pas un truc excitant comme les réseaux séparatifs. Mais comme on en parle dans les écoquartiers, mais à peine on sort de l'écoquartier, on a un réseau unitaire. Donc on fait chier les gens comme il y a l'écoquartier, on les rend responsables. Et après, on peut mélanger tout. Et après, on mélange tout. Donc on a fait des trucs, admettons, sur le réseau séparatif, sur les matières fécales, sur les eaux usées, sur le manque d'eau, sur la réutilisation de l'eau usée, et ainsi de suite. Vous pouvez parler de ce sujet avec un enfant. Avec un enfant tout petit, maternel, parce que je faisais un cours sur aux enfants en disant, vous vous rendez compte que vous faites sec dans vos couches et on vous apprend à pisser dans l'eau potable. Donc là, d'un seul coup, vous avez un truc dans la classe, vous dire, ah ben oui, c'est vrai, t'es allé sur le pot, tu peux aller sur la cuvette, maintenant, et pss, hop, 12 litres pour simplement... Et pourtant, avant, voilà, il faisait dans sa couche, et on pourrait dire que c'est le début d'un chiotte sec. Quoi. Pourquoi on ne passe pas de la couche à la sueur, par exemple. Bon, tout ça pour dire que vous pouvez ramener un sujet d'un seul coup où il y a des tas de gens qui disent, mais j'aurais jamais pensé que j'étais compétent pour ce sujet. Oui, ben j'ai fait des débats avec des égoutiers et sur les gaz toxiques qu'il y a dans les égouts, sur la façon dont on gère les matières fécales entre 7h du matin et 9h, parce qu'on a un afflux de matières fécales et il faut les transporter, il faut les promener longtemps avant qu'elles arrivent à la station d'épuration, sinon elles encombrent la station d'épuration, alors qu'on les promène dans le réseau, c'est-à-dire le réseau fait rétention et lentement, par des petits aiguillages, on les emmène au fur et à mesure. Jusqu'à midi, midi ça recommence, et hop, recharger, et ainsi de suite. Et donc, quand vous faites ça, c'est étonnant, sur l'handicap, vous faites ça avec des handicapés, des parents, des machins et tout, des pompiers, j'ai fait avec des pompiers sur l'incendie, sur l'intensité lumineuse et tout. Donc je me dis, mais en fin de compte, cette université foraine, elle peut exister donc à tout endroit. On me dit, oui, mais que par toi. J'ai entendu que toi, quand t'es là, tu y arrives, mais nous, on saurait pas le faire et tout. Donc un jour, j'en avais ras le bol, et donc j'ai proposé de mettre un article dans la loi Création, Architecture et Patrimoine, puisqu'on m'avait posé, j'avais été entendu par les députés et tout, j'avais dit, mais ce qu'il faut, c'est une loi qui soit comme toute œuvre pour être jugée, doit être terminée, on pourrait dire, toute architecture doit être jugée a posteriori et non pas a priori. Les lois existent, les règlements existent, certains sont contradictoires dans un contexte et ne le sont pas dans un autre contexte. À nous, intellectuels, de connaître les lois et de dire, ben, dans ce cas-là, c'est plutôt celle-ci. Vous voyez, mettons, je ne sais pas, sur l'isolation par l'extérieur des logements inscrits à l'inventaire des corons qui sont en briques, mettre l'isolation dehors pour que le logement soit performant, c'est un peu con quand même, parce que c'est la brique, elle a déjà un siècle, 120 ans, et la tôle dans un quartier difficile va durer 10 ans. Quoi, même pas. Et le mettre à l'intérieur, les logements sont déjà tout petits, donc c'est pas possible. Ils sont habités, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas faire un niveau moyen de l'économie thermique? Est-ce qu'on peut dire, bah, puisqu'on fait le toit, puisqu'on fait l'arrière, on fait pas le devant, on fait un niveau moyen, on fait pas un niveau... Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une loi qui s'appellerait le permis de faire? C'est comme il y a le permis de construire qui est magnifique, vous vous rendez compte? C'est un individu s'adresse à une collectivité pour avoir le droit de construire, d'amener sa pierre à l'édifice dans un ensemble qui ne lui appartient pas. Il est l'auteur et il demande un permis de construire, et ce permis lui est accordé, et on le respecte comme auteur, et après c'est un objet construit qui se met avec l'ensemble, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on instruit un permis. Alors, du coup, je me suis dit, mais on va faire un permis de faire qui fait qu'on jugera a posteriori, pas parce que j'ai un couteau dans la poche, que je suis un criminel. Mais par contre, si vous prenez l'avion avec un cutter, comme il y a un mec qui a tué quelqu'un dans un avion avec un cutter, vous ne pouvez plus prendre l'avion avec un cutter, par exemple. C'est drôle. Mais moi, mon petit-fils, il est à l'école à Marseille. Comme ils se battent à la cantine, on a supprimé les couteaux pour pas qu'un enfant blesse un autre avec un couteau. Donc on a changé la bouffe. Ils mangent maintenant tout mou parce qu'il n'y a plus de couteau. Donc, ils mangent à la cuillère. Vous vous rendez compte? Alors, parce qu'il y a un mec qui a dit, maintenant, ils se battent, alors il y a un couteau, machin. Alors, moi, je dis un jour, mais la fourchette, elle est plus dangereuse que le couteau. Le couteau, il ne coûte même pas. Les fourchettes, ouais, à peu près, c'est le mec qui l'attraque là, il les tue, quoi. Alors, c'était un grand débat. Est-ce que la fourchette est plus dangereuse que le couteau? Est-ce que la cuillère et tout? Il y a même des mômes qui ont dit, ben, nous, on va tailler les cuillères dans la cour et on va faire des poignards avec. Alors, oh, là, là. Ben, si vous voulez les cuillères. Bon, c'était, bon. Ben, pour vous dire, alors, je me suis dit, permis de faire, j'y vais. J'ai mis 5 ans pour que la loi, soit promulgué, les allers-retours, l'Assemblée, le Sénat, première lecture, deuxième lecture, machin, 5 ans. Et à la fin, j'en pouvais plus. J'avais une associée qui était plus jeune que moi, qui était pugnace. Elle m'a dit, on y arrivera, on y arrivera. J'ai dit, bon, écoute, vas-y, toute seule. Et elle obtient donc que la promulgation soit avec des décrets d'application, parce qu'une loi promulguée sans décret d'application, zéro. Alors, les décrets d'application, il y a quelqu'un au Conseil d'État qui corrige encore une dernière fois, parce qu'après avoir première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, quatrième lecture, machin, amendement et tout, déjà vous ne reconnaissez plus votre loi. Et à la fin, il y a un mec au dernier moment qui dit, bon, attends, là, elle est obligée de passer, parce que le décret d'application, alors on va le coincer, et donc on me met que le permis de faire ne pourra se faire que par la création d'une commission sous l'autorité du préfet. C'était pire. C'était en fait compte. J'avais obtenu la liberté et à la fin, il fallait une commission. Et là, on me dit, cette expérimentation n'est valable que 3 ans. Bon. Ma copine, Sophie Léron, elle me dit, écoute, on le prend, il va y avoir les élections présidentielles, après, on attaque et on a le décret d'application, on remontera. Je dis, ok. On attend les élections, la mise en place des ministres, on demande à être reçu par les deux ministres concernés, donc Jacques Mézard, Code Transition écologique, et Julien de Normandie, Logement. Ils nous reçoivent. On a vu, quand ils nous recevaient, déjà, il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Ils nous flagornaient. Ils étaient c'est formidable, formidable, machin. On était reçus dans le salon, machin. Il y avait le directeur de la construction, formidable, formidable, formidable. Mais moi, en douche, je me dis, tu vois, ils vont nous faire un coup, là. Et de Normandie dit, bon, elle est vachement bien, votre loi. Il est très jeune, hein. Elle est vachement bien. Mais personne ne s'en est servi. Donc, est-ce qu'elle est utile? J'ai attendu vous plaisanter. Décret d'application un mois avant le premier tour, le deuxième tour, il faut laisser. Non, mais nous, en fin de compte, on va faire une grande loi libérale. Votre loi, elle est trop libertaire et elle va concerner que des petites personnes. Donc, nous, on veut une grande loi libérale et vous verrez, dans la loi libérale, vous vous y retrouverez. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Entre la loi libérale que vous allez faire, qui est une loi dérogatoire pour les plus gros, et la loi que je voulais faire, moi, qui est expérimentale pour les plus petits, on ne s'entendra pas. Donc, ça ne marche pas. Comme Jacques Mézard était un élu ratsoc, comme on dit, un peu vieux briscard, il a compris quand même que là, je l'avais gros sur la patate, quoi. Et il a dit, écoutez, on va le laisser faire une expérimentation sur le terrain, ce qu'on appellerait une loi en marchant ou une expérimentation. Sous-entendu, il mourra avant la fin et on sera tranquille. Moi, j'ai accepté. J'ai dit, ok, je prends. Et j'ai dit, mais est-ce que vous m'autorisez à choisir les lieux? Vous n'allez pas m'imposer des lieux. Parce que si vous m'imposez des lieux, je vois déjà, je vais être coincé. Non, non, vous êtes libre. Et en effet, votre proposition de travailler sur des échelles différentes nous intéresse beaucoup parce que nous-mêmes, on se pose la question sur l'application de certaines lois, sur le logement social, par exemple, entre un village de 50 habitants et Mayotte, parce que j'avais fait exprès de choisir un département d'outre-mer, un peu différent. Voilà. Alors, non, nous, on veut les 7 échelles, et après, vous choisissez qui vous voulez. Donc, on a la grande question, c'est comment on va trouver les gens. Donc, on a pris notre voiture, par bouche à oreille, jusqu'à temps qu'on rencontre un village qui était prêt à expérimenter, un bourg prêt à expérimenter, une ville classée monument historique, une métropole à taille humaine, une banlieue, un équipement répété, quoi, une gare fermée, par exemple, parce qu'il y a 3000 gares fermées qui ont une valeur nulle, et un département d'outre-mer. Et donc, on l'a appelé la preuve par 7, qui est de dire, en fin de compte, est-ce qu'on peut créer 7 ateliers publics, on pourrait appeler ça comme ça maintenant, il ne faut pas le dire, mais on crée des agences locales qu'on autofinance avec les opérations telles qu'on les a locales, avec les moyens qu'on a, et on fait la preuve que, exemple, ce n'est pas possible de construire un logement social dans un village de 50 habitants. Alors, ça a été long, on a mis un an pour trouver les 7 lieux, on a signé un contrat, il fallait qu'il y ait un sujet qui concerne un maire, car je voulais absolument travailler avec un élu, je voulais absolument pas faire un truc en dehors de la représentation. Il fallait que ce sujet ait un acteur social dans cette collectivité qui, lui, n'est pas élu, mais qui pourrait l'être, mais qui a préféré rester dehors, mais qui est un acteur qui a les capacités de mener le sujet. Et après, un aménageur, parce que on va manquer de moyens. Et donc, une fois, ça peut être un office d'HLM, ça peut être un promoteur, mais ça peut être un maçon portugais, par exemple. Et ben moi, je pense que le premier promoteur, c'est un maçon portugais. Il construit sa maison quand il n'a pas de travail. Et quand il a du travail, il travaille. Et il revend sa maison, il fait un peu de bénéfice. Alors, on a fait ça. Et de ça, on arrive à la fin cette année. Donc, on va parler un peu de ça, si vous voulez. Très peu, d'ailleurs. On arrive à la fin cette année. Et donc, on a fait une plateforme jurisprudentielle, c'est un peu présentencieux, de relever les cas qui ont permis qu'on puisse faire et les cas... pas permis qu'on puisse faire. En gros, sur ce cas-là, on a réussi en interprétant comme ça, ou d'ailleurs, ça existait dans la loi. Quoi. Et cette plateforme, elle va donc servir à d'autres, d'ailleurs, qui d'un seul coup, maintenant, nous rejoignent en disant « Ah, mais on ne savait pas qu'on avait fait ça, et on fait comme vous, mais on n'avait pas réussi comme vous, ou on a mieux réussi que vous, d'ailleurs, des fois. » Et entre-temps, j'ai mis en place donc 2 chaires de recherche, parce que je voulais associer ma démarche à... dans le temps long, à dire pourquoi il n'y a pas des écoles d'architecture qui s'intéressent à ça. Donc j'ai mis en place une chaire de recherche expérimentale sur l'expérimentation à l'école de Paris-Lavillette. Ça s'appelle la chaire effet. Et après, j'ai mis une chaire avec Cynthia Fleury au CNAM sur la santé. Parce que je pense que le grand sujet à venir, c'est quand même la santé mentale. Enfin, c'est la santé avant la santé telle qu'on la connaît. Et nous, on a les organismes de santé pour soigner quand on est malade, mais on n'a peut-être pas les conditions pour comprendre avant de tomber malade, quand même. Alors, ces deux chaires, donc, il y a des doctorants, il y a des contrats CIF, donc ça veut dire que ça permet d'installer une autre dimension que la mienne, qui était papy attaque sujet, puis après il se barre. Voilà. Alors, il y a quelques photos, mais moi j'aime pas montrer les photos parce que les architectes montrent toujours ce qu'ils font, les photos, mais c'est un peu pour presque pour montrer l'absurdité. Je donne juste un exemple. Vous connaissez la loi comme quoi il faut du logement social. D'ailleurs, on le voit bien, là, ils ont le Conseil national de la, pas révolution, mais ni de la résistance, mais de la, configuration, a défini des nouvelles règles pour le logement. Tout le monde n'est pas satisfait, mais c'est encore des mesures, si vous voulez, qui sont des mesures autoritaires venant d'en haut et tout. Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mettons, exemple. On a dit on va rééquilibrer la mixité sociale et on va faire des zones tendues en demande ou éventuellement tendues sur le plan social et tout. On va rééquilibrer. Donc, on met des barrières. Alors, vous dites, admettons, on a fait exprès, je veux construire un logement social dans un village de 50 habitants, qui est la plus petite unité démocratique reconnue par la République. En dessous, il n'y a pas de représentation possible. Et au-dessus, ben, ça existe, mais en dessous, il n'y a pas. Alors, c'est quoi un logement social dans un village de 50 habitants? C'est un habitat rural, on va dire. C'est un habitat, d'ailleurs, qui était agricole. Mais comme tout a été vendu, parce que l'agriculture a changé tout, et que tout est en résidence secondaire, donc quelqu'un qui ferait réellement son métier pour nous nourrir, pour vivre de son métier, qui est jeune, qui n'est pas quelqu'un qui a fait normal sup et qui, d'un seul coup, décide de faire des yaourts. Pas du tout. Il y a quelqu'un qui dit, avant de faire son métier, et on a pris un cas, mettons, quelqu'un qui est hébergé. Et donc, cette personne qui est berger, 6 mois par an, il a besoin d'habiter avec ses bêtes. Et 6 mois par an, on a connu ça, hein, il va dans les alpages, on s'en va, quoi, on reste pas là. Mais il habite avec ses bêtes. Et donc, lui, si on construit un logement social, pour lui, il faut trouver un organisme social de logement social qui va venir que pour un logement, aucun ne viendra. Et on va dire, et dans le programme, pardon, il y a 1000 bêtes. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le berger et sa femme et leurs futurs enfants, mais il y a 1000 bêtes. Le mec dit, mais attends, le logement social pour 1000 bêtes, ça n'existe pas. Elle dit, mais attendez, je ne comprends pas. Vous êtes en train de dire qu'il faut vivre avec le vivant, raccorder le vivant, machin, et le vivant, agir pour le vivant. Et là, je vous donne un exemple. Le mec, c'est lui qui va tenir le paysage par ses bêtes. Et il va nourrir des gens, il va gagner sa vie. Sa femme, d'ailleurs, c'est elle qui fait les fromages, la confiture et tout. Et d'un seul coup, il n'y aurait pas de quoi lui trouver un logement accessible. Alors donc, ça, on l'a déjà fait une fois, là, on va le refaire. Donc. Comment on peut relier agriculture, développement économique et logement social, parce que c'est la même chose. Quoi. Et comment on peut relier peut-être habiter et travailler, c'est la même chose. Quoi. Et comment on peut d'ailleurs avoir 6 mois par an un logement vide qu'on pourrait louer à des urbains qui viendraient voir comment on vit à la campagne, par exemple. Un truc qui est assez simple. Et puis, ça permettrait de faire des petites rentrées de loyer, par exemple. On n'a pas le droit. Voilà, ça, c'en est un. Et puis, si vous prenez l'extrême, à Mayotte, et vous l'avez vu, Darmanin démolit les logements autoconstruits. Les logements informels, on appelle ça l'architecture informelle. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et tout. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, comme tout bidonville, c'est inhabitable. Ça, c'est clair. Mais au moment où c'est construit, c'est magnifique. Mais la République ne retient pas cette construction comme réglementaire, donc elle n'apporte ni l'eau potable, ni l'évacuation des eaux usées. Et donc ça devient un cloaque. Si vous voulez. Et donc après, on peut le démolir. Après, c'est la pègre qui s'installe dedans, qui vend l'eau, qui vend le machin et tout, qui tiennent les bornes d'eau et ainsi de suite. Et donc c'était de dire, est-ce qu'on pourrait faire qu'on fait un relevé comme un plan de sauvegarde historique, on ferait un relevé de plan de sauvegarde social. De ça, on en fait le PLU. Et de ce PLU, on en fait le schéma d'aménagement. Donc je fais ça dans un petit village sur la côte ouest de Mayotte. Voilà. Tout ça, vous voyez, pour dire que c'est incroyable, si vous voulez, entre Bonjustin, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et Chiconi, on pourrait presque dire que les deux pourraient se parler, et peut-être que Chiconi pourrait donner une leçon ou une explication à Bonjustin, et non pas l'inverse. Alors, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, parce que je ne... Pas de... Mais c'est un... tombe en panne. Ah bon, l'actionne. Ah, je l'actionne. Alors, bon, ça, bon, voilà, c'est pas formidable. Alors, ça, c'est un logement social dans... Ah oui, où le maire voulait garder une population jeune dans son village, et il n'y avait pas de maison, c'était trop cher, mais par contre, il avait un foncier énorme, mais il est dans un parc naturel régional. Donc, est-ce qu'on peut faire un PLU dont on modifierait les règles, on construirait dans des parties du parc naturel, en accord avec le parc naturel, parce que habiter un parc naturel, c'est le protéger. Donc là, on s'est mis dans une châtaigneraie, mais dont la règle était que le bâtiment ne devrait pas abîmer le sol. Il serait posé sur pilotis, et que comme les routes pour y aller sont très tortueuses, la construction serait donc presque portée à dos d'homme, on pourrait dire. Voilà. Donc toute la construction... Et l'idée, c'est de faire un toit qui, lui, est isolé. La maison n'a qu'une façade, et un pignon arrière pour entrer. Elle n'a qu'une façade, et on livre le toit isolé, le rez-de-chaussée, avec cuisine, salle de bain, et on laisse tout libre à l'autoconstruction. Mais c'est une autoconstruction qui est accompagnée par la mairie. C'est-à-dire que la mairie a été maître d'ouvrage. Elle a eu le droit, puisqu'aucun organisme HLM ne voulait venir, d'être agréé pour, d'avoir le droit d'emprunter au même taux, d'être cautionné par le département et d'être gestionnaire du logement. Donc on lui a dit, mais vous vous rendez compte tout le boulot que ça va être et tout, là, si jamais il y a une vacance et tout, ben on va tester. Il n'y a pas un jour de vacances, les mecs se battent pour habiter là. Et il y a donc même des gens, si vous voulez, qui ont retrouvé un emploi par la modification intérieure. C'est-à-dire qu'en étant embauchés par le charpentier, ont compris qu'ils pouvaient faire la menuiserie, et d'un métier qu'ils avaient appris et jamais exercé, il y a un logement social où il a mis son séjour au premier et il a mis l'atelier de menuiserie au rez-de-chaussée. Alors on en a fait 3, en 11 ans pour en faire 3. Et maintenant il y en a 8 parce qu'on a laissé copier. On a dit, mais en fait, compte, maintenant allez-y, quoi, faites ce que vous voulez. Mais le principe, c'est un toit très isolé et une façade isolée. Et après, on a fait ce que vous voulez. Ça s'appelle les bogues du Blatt. Voilà où c'est. C'est pas mal. Ça, c'est le maire. Ah, c'est le maire, non, pas le maire. Ça, c'est celui qui a le pull beige. Il a fait l'école polytechnique. En 68, il a fait un stage dans la mine. Et il a dit plus jamais ça. Il est devenu éducateur social. Et là, il est à la retraite. Et il est le premier adjoint. Donc, c'est sûr qu'on avait comme maire un agrégé de mathématiques et comme premier adjoint un polytechnicien. Donc, ça aidait dans les discussions dans l'administration. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de clôture, bien sûr. Tout le monde est invité. Et ça, c'est... ben voilà, c'est comme ça, 3 ans ou 4 ans après, quoi. C'est des photos qu'on m'envoie, mais moi, je ne vais jamais revoir ce que j'ai fait. Pour pas... Voilà le maire en train de faire à manger. Ça, c'est ce que j'ai été élevé chez les jésuites. Et le premier collège de jésuites, il est à Billon. Il est à côté de Clermont-Ferrand. C'est le premier collège qui a été protégé par l'évêque de Clermont. Et donc, ce collège a fermé. Il est devenu un truc pour enfants de troupe, après pour, je ne sais pas quoi, un délinquant. Après, il a été fermé, on a construit un collège à côté, et on a décidé de le réouvrir. Et donc, on n'avait pas le droit de le réouvrir, parce que, voilà, c'est interdit, il est classé monument historique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un monument historique qui tombe en ruine, c'est pas grave, mais le réouvrir, d'un seul coup, il y a des règles de l'architecte en chef. Donc, je l'ai réouvert en gardant les parpaings tagués, en disant, au cas où tu voudrais les remettre un jour, on va les garder comme ça. Et on les a réouverts, mais on a fait d'abord que seules les fenêtres étaient ouvertes, et il y avait des barres, donc les gens venaient près des fenêtres. Voilà, donc, et après, on a ouvert la porte, après on est rentré, et maintenant, voilà, il est totalement occupé. C'est-à-dire qu'il est redevenu un lieu de vie à Billon. Il était dans cet état-là quand on est rentré. Mais c'est un état apparemment désolant, mais... voilà, très vite, on l'a remis propre. Enfin, ils ont mis des bons. Après ça, c'est la cuisine. Parce qu'on a retrouvé la cuisine. On retrouve tout. Dans la chapelle, on a fait la salle de spectacle et tout. Ça, c'est le jardin. Et on a même retrouvé la roseraie et tout. Et c'est de faire... Ça, c'est une journée du patrimoine. C'est de dire, mais vous voyez, on a osé l'ouvrir. Et on ne voit pas pourquoi. Alors, de temps en temps, on change des fenêtres, ou de temps en temps, on met un polycarbonate. Ouais. Ça, c'est le collège qui est à côté, c'est le devant, quoi. C'est le collège qu'on a construit, qui est déjà fissuré, qu'il faut réhabiliter, il n'est pas aux normes écologiques et tout. Là. Alors, il va coûter très cher, tu vois. Ça, c'est tout, ouais, c'est billon. Alors, pourquoi je montre celui-là? Parce que c'est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des collectifs d'architectes qui considèrent qu'il faut faire son métier quand même en collectif. Comme tous les collectifs, ils explosent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très positif. Quand un collectif explose, il emmène l'expérience avec d'autres, chez les autres. Et donc, on mélange les expériences. Et donc, là, c'est un collectif qui s'appelle Bellastock, qui a travaillé sur le réemploi à Paris. Et ils se sont séparés en deux. Et là, ils se sont appelés Rural Combo. Donc, c'était de dire, on va dans la campagne, on achète un bâtiment qui a une valeur nulle, on montre que c'est habitable, et on fait un peu ce que je faisais il y a 50 ans. On fait les plus petites choses que l'architecture réclame. Donc là, ils ont eu un petit contrat du parc naturel. La personne qui a les cheveux blancs et qui a la chemise à carreaux, là, qui est en plein milieu au fond, c'est un grand directeur de parc naturel qui est à la retraite et qui maintenant travaille l'aide aux communes pour faire des PLU qui se réduisent, c'est-à-dire éviter l'urbanisation. Jacques. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez, je n'ai même pas vu cette photo. Moi, donc, tout le monde occupe le bâtiment. Voilà, maintenant c'est comme ça. Voilà, j'étais pas là, jour-là. Oui. C'est dingue, quoi. C'est un truc. Voilà, il y a un marché qui s'est installé devant, je ne savais pas. Ouais. Voilà, donc un architecte de Rural Combo. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que celui qui a la barbe, le troisième, lui, il est maire d'une commune à côté qui s'appelle Pérignat-sur-Allier. Et Pérignat-sur-Allier était la ville franche de Billon, parce que c'était sur l'Allier. Et donc, quand on a fait l'un, l'autre a dit, on ne peut pas faire sans l'autre. Alors que, administrativement, aujourd'hui, il y en a un qui est dans le Grand Clermont et l'autre qui est dans le PNR. C'est-à-dire que Billon, le chef-lieu, est dans le PNR, et Pérignac, qui est le petit village, il est dans le Grand Clermont. Et quand ils se rencontrent et qu'ils se racontent leurs histoires, c'est invraisemblable, parce qu'il y en a un, il est la troisième couronne de Clermont, il hérite des plus pauvres, tous ceux qui pensent qu'à la campagne, ils vont s'en sortir, et en vrai, non, c'est pas vrai, alors que l'autre, c'est un village moyenâgeux. Et donc, on a fait que deux maires se rencontrent et se racontent presque leur réunion apocalyptique, quoi, enfin, apocalyptique, même pas... honteux, quoi. On les mène par le bout du nez sur des opérations petit cœur de ville ou petite ville de demain, ou je sais pas quoi. Des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, racontez-moi votre truc. Le temps que vous allez passer pour avoir la subvention, c'est mieux de le faire soi-même. Hein. Voilà. Alors ça, c'est à Pérignat-sur-Allier. Donc c'est un autre architecte. Il y a lui, de Rural Combo. Là, c'est le maire. Mais c'est un autre architecte qui a lancé une opération extraordinaire, qui est de travailler sur des volumes capables. C'est-à-dire que l'établissement public foncier rachète des maisons à la demande du maire, et après, on ne travaille que sur des volumes capables qui sont dans les volumes, on va dire, moyenâgeux, 18e siècle, et seulement quand on a le volume capable, on définit quel programme on met dedans. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et on est obligé de démolir une maison pour avoir une maison, il y a une dent creuse et tout. Et donc après, comme on ne trouvait personne qui voulait habiter dans des volumes capables non normés, c'est ça qui est terrible, j'ai voulu tenter l'expérience de mettre sur le bon coin, de dire qu'il y a des volumes capables disponibles. On a eu des pauvres qui sont venus, que je pense qu'aucun organisme HLM ne voit. Parce que le volume capable, pour quelqu'un de très pauvre, qui est un peu à la marge et tout, il y a une possibilité de se reconstruire. Et on a vu quelqu'un, mettons, venir, qui voulait un volume capable pour habiter avec sa mère. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les moyens, avec sa femme et sa mère, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les moyens de la mettre à la maison de retraite, et il voulait donc un volume capable pour avoir un rez-de-chaussée pour elle, un étage pour eux. Et moi, quand j'ai vu ce mec, il m'a dit, attends, mais voilà, on a la vie, quoi. Grâce au bon coin, on a la vie, quoi. Et donc, on lui a donné. Moi, j'étais pour qu'on lui donne peut-être cette maison, d'ailleurs. Et alors, de temps en temps, il en construit une autre, c'est Boris Boucher. Il est professeur à Clermont-Ferrand, c'est un très grand architecte. C'est aussi une façon de donner une commande à quelqu'un qui n'accéderait pas à cette commande. Parce que moi, j'ai rien à perdre. Voilà, ça, c'est la place. J'avais racheté la boulangerie aussi. Moi, j'ai habité à la boulangerie. Là, c'est le marché. Là, maintenant, on est à Pérignat. Voyez, c'est le même marché qu'on transporte. elle m'a proposé, parce qu'elle a failli avoir une grève aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit, je viens pas, c'est la grève, quand même. Si, si. Elle m'a proposé de venir me chercher en voiture. 5 heures de route Paris, 5 heures de route pour venir. Donc, j'ai dit, ah, non, quand même, on fera un zoom. Et donc, la grève n'a pas eu lieu, je suis là.